Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Néo-Québec sur CIBL. Nous sommes dimanche 4 juin 2023. Mon nom est Cyril Ekwala et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve au programme. Vous avez vu ça un peu dans les annonces. On va avoir la sénatrice Amina Gerba qui va venir un peu nous donner plus de détails sur une tribune qu'elle a publiée il y a quelques jours, je pense que c'était le 27 mai, dans le quotidien La Presse, et ça c'était lié à la Journée mondiale de l'Afrique, donc elle a accepté de nous parler, on va l'entendre en deuxième partie de l'émission.
Ok, vas-y.
Libraire de force!
Tout sur la littérature.
Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer.
Et ça va générer chez lui une réelle angoisse.
Une série nouvelle qui s'appelle Le Projet P.
Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres.
Libraire de force!
Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 16h. CIBL, au cœur de la littérature.
Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h, c'est rafraîchissant.
Alors, en 2017, elle était présentée dans les médias comme étant quasiment à elle seule une chambre de commerce, un magazine, un événement, une tribune, une voix pour l'Afrique au Québec. 4 ans plus tard, en juillet 2021, elle est nommée sénatrice indépendante pour le Québec, pour le district de Rigaud. Aujourd'hui installée au Sénat, Amina Gerba, oui, c'est d'elle dont je parle, l'honorable Amina Gerba, est sénatrice donc et coprésidente de l'Association parlementaire Canada-Afrique. À l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique qui s'est passée le 25 mai dernier, elle a publié une tribune qui nous donne l'occasion de la recevoir et de discuter un peu de 2-3 choses justement au sujet de cette tribune. Honorable Amina Gerba, bonjour, puis merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Cyril de me recevoir aujourd'hui.
C'était important pour nous, surtout qu'après cette tribune-là, j'ai été particulièrement curieux de savoir beaucoup de choses, parce que le 25 mai de l'année dernière, Amina Gerba, vous plaidiez déjà pour la reconstruction du lien du Canada avec l'Afrique. Ça, c'est à travers la tribune que vous aviez publiée dans le quotidien Le Devoir. Et à la fin, vous promettiez même aux lecteurs et aux lectrices de revenir un an après avec un message que vous vouliez, que vous étiez en train de voir, plutôt plus positif. Et vous promettiez d'évoquer les dividendes qui allaient découler peut-être de cette reconstruction des liens du Canada avec l'Afrique. Et là, le 27 mai, là, il y a quelques jours donc, il y a cette nouvelle tribune que vous publiez pour une diaspora africaine partenaire. Cette fois, elle est parue dans le quotidien La Presse. Et à vous lire, j'ai eu l'impression que ça n'allait pas dans le sens, en fait, hein, de ce que vous promettiez, c'est-à-dire un message plus positif. J'ai eu l'impression que vous n'étiez pas entendu. Est-ce que je me trompe?
Cyril, vous me donnez par cette question l'occasion de reclarifier mes propos. La première tribune, vous comprendrez que je venais d'être nommée au Sénat et je faisais part de mes espoirs, comme vous le dites, mes espoirs par rapport à ce qui peut être fait, ce qui doit être fait. Mais votre question me donne l'opportunité de rappeler à vos auditeurs, à nos auditeurs aujourd'hui, le rôle des sénateurs. En fait, le rôle des sénateurs diffère de celui des membres du gouvernement. Le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, vous connaissez dans un système démocratique, l'exécutif a ses propres priorités. Mmh. Donc, ses priorités sont basées sur ce qu'il a promis en campagne électorale à ses électeurs. Le mandat des sénateurs consiste à examiner, amender, enrichir et voter des projets de loi. Donc, nous pouvons proposer des choses, on peut s'exprimer sur des questions, faire des études en comité, faire des recommandations au gouvernement, concernant les enjeux qui touchent nos communautés, mais c'est pas nous qui décidons. C'est le gouvernement qui décide. Les sénateurs ne sont pas des élus, il faut le rappeler, mais les législateurs qui doivent poser un regard attentif et objectif sur les projets de loi. Mmh. Et les projets de loi sont issus de la Chambre de communes, des communes. Mmh. Donc, je ne peux pas me substituer à un député ou à un membre du gouvernement. Moi, je ne peux que proposer, et ce que j'avais proposé demeure encore aujourd'hui, et on attend toujours. Ça, c'est une nouvelle tribune, un nouveau sujet, une nouvelle proposition, et ça fait partie du rôle de sénateur de proposer en espérant que ça retienne l'attention des gouvernements, du gouvernement. Mmh.
Alors, je vais, au vu de votre réponse, je vais essayer d'aller chercher, oui, aujourd'hui, la sénatrice, mais la citoyenne, j'ai envie de dire, j'espère que vous allez m'accorder cela, la Madame Afrique que vous avez toujours été, parce que bien avant d'avoir été nommée sénatrice, vous avez toujours été justement celle qui a tout fait pour que les relations entre le Canada, l'Afrique, les investisseurs soient quelque chose de très visible. Parce que vous aviez même à un moment donné parlé d'indifférence, d'un positionnement stérile. Est-ce que la position ou l'attitude du Canada vis-à-vis de l'Afrique, qu'est-ce qui explique ça, cette espèce de d'indifférence, pour reprendre un terme que vous avez utilisé à l'époque?
Ben, si j'ai utilisé le terme indifférence, les choses ont évolué, hein. Les choses évoluent quand même du côté du Canada. C'est pas juste moi, c'est pas Madame Afrique, comme vous le dites. J'espère que tous ceux qui se prononcent sur ces questions qui touchent les relations Canada-Afrique sont écoutés de plus en plus. Et comme j'expliquais précédemment, notre rôle est de prendre la parole publiquement et d'interpeller le gouvernement sur des enjeux importants pour tenter d'orienter ses politiques. Mmh. Le gouvernement a ses propres priorités. C'est un fait de relever que nos relations avec l'Afrique ont manqué d'attention depuis de nombreuses années. Cela ne date pas du gouvernement actuel, hein. Il s'agit d'un mouvement qui dure au moins depuis une quinzaine d'années. Donc, toutefois, les choses tendent à changer. Comme je l'ai dit, il faut le reconnaître et il faut le relever. Ce gouvernement a commencé au niveau fédéral, je veux dire, à lancer des choses, des idées. Il y a une consultation publique qui a commencé en vue de bâtir une stratégie ou un cadre, comme il l'appelle désormais, pour une coopération économique développée par la ministre du Commerce international, la ministre Ng. Je pense qu'il faut le saluer. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Mmh. Donc, relever certaines décisions qui se sont prises, qui ont été annoncées depuis mon dernier papier, ma dernière tribune. Le gouvernement a annoncé l'ouverture de deux nouvelles missions diplomatiques canadiennes en Afrique, au Rwanda et à l'Union africaine, par exemple. Mmh. On attend incessamment la nomination, si ce n'est déjà fait, là, dans le cadre du Rwanda et de l'Union africaine. Il y a eu l'introduction de l'Afrique dans une lettre mandat de la ministre du Commerce international. Ça ne s'est jamais fait. C'est un début et on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Mmh. Ça bouge.
D'accord, je vous comprends et je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire. Je vais revenir sur ces deux tribunes quand même que vous avez fait publier à hauteur de, du moins dans l'intervalle d'un an, surtout lié à la Journée mondiale de l'Afrique. Vous vous avez interpellé les investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels. Là, je comprends que c'est en train de bouger. Dans cette deuxième tribune que vous avez fait paraître il y a quelque temps, vous mettez en avant les bénéfices que pourrait tirer le pays en établissant un partenariat avec la diaspora africaine. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Que ça pourrait être une solution?
Ben, je le pense sincèrement, c'est-à-dire que le gouvernement a entre ses mains une précieuse ressource, c'est-à-dire la diaspora africaine. C'est une précieuse ressource. Pourquoi? Parce que quand on décide d'investir à l'étranger, il faut prendre des risques. La diaspora est prête à prendre ces risques-là. Elle le fait déjà parce que ce sont les pays qu'elle connaît. C'est un continent qu'elle connaît. Donc, pour elle, c'est pas si risqué. Donc, si on a peur de prendre des risques et qu'on compte sur la diaspora, je pense que c'est un atout que et je laisserai le gouvernement, j'espère que le gouvernement va écouter, lire et comprendre que cet atout-là peut servir, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont utilisé cet atout-là. Il y en a d'autres qui ont créé des conseils pour utiliser, exploiter la diaspora comme étant un pont. C'est vraiment le message que j'ai voulu passer dans ma deuxième tribune. Nous devons nous inspirer de ce qui se fait déjà. Sachant ce qui a fonctionné chez les autres et l'adapter au contexte canadien, c'est-à-dire à la sauce canadienne, comme on dit quelque part chez nous.
Mais justement, voilà. Par rapport à ça, si vous permettez, par rapport à ça, vous avez émis cette idée du Conseil canadien de la diaspora africaine. Et c'est pas à vous que je vais le dire, parce que vous avez dû recevoir les réactions directement à votre bureau, mais vous avez vu que ça a suscité beaucoup de réactions, notamment au sein de diaspora africaine ici au Canada. Ce Conseil canadien de la diaspora, vous avez émis l'idée, mais bon, je me dis, quand on émet une idée comme ça, on a quand même quelque part peut-être pensé un peu comment ça peut se mettre en place. J'ai presque envie de vous demander, Amina Gerba, à qui revient de mettre ça en place? À la diaspora elle-même de s'organiser, ou vous pensez que ça revient aux institutions?
Vous savez, la diaspora s'organise déjà au travers de plusieurs organisations, des ONG, des associations, mais ce n'est pas suffisant. Je laisserai au gouvernement le soin de définir ce conseil, parce que avec l'appui du gouvernement, avec la caution du gouvernement et l'accompagnement du gouvernement, ça donne tout un autre sens. C'était ça le cœur de mon message dans ma tribune de cette année, c'est que le gouvernement doit s'inspirer, comme je le disais tout à l'heure, doit s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs. Les États-Unis, la Suisse a eu à faire quelque chose de ce genre-là. Et si je prends le cas des États-Unis, par exemple, le président Joe Biden, en décembre 2022, a annoncé ce que serait le conseil qu'il a décidé de créer, avec trois objectifs principaux. Il s'agit de conseiller le président sur un large éventail de questions et de guider les décisions du gouvernement. Mmh. C'est important d'améliorer aussi le dialogue entre les responsables américains et la diaspora africaine. On n'a pas ce canal de communication. On a beaucoup, beaucoup d'organisations, mais il n'y a rien qui permette au gouvernement de s'adresser directement à une organisation qui fédère la diaspora. Mmh. Donc, renforcer les liens culturels avec nos pays d'origine. Il faut que ce soit la diaspora qui guide le gouvernement sur comment faire des affaires, comment communiquer, comment utiliser ces liens-là au niveau culturel, social, politique. et économique avec les communautés africaines. Donc, je pense que la diaspora africaine, elle est mondiale. Et les États-Unis ont donné le ton là-dessus, ça aussi en conseil. Je pense qu'il y a d'autres pays qui ont fait cela et il faut qu'on en, on s'en inspire.
Tout à fait. Je sais qu'au début, vous m'avez expliqué, et puis à celles, ceux qui nous écoutent, le rôle des sénateurs et sénatrices. Mais permettez-moi, quand je vous écoute, est-ce que je peux considérer que ça, par exemple, le Conseil canadien de la diaspora africaine, que ça pourrait être quoi, comme une recommandation plus ou moins ferme? Je sais que vous m'avez dit que la sénatrice ne fait que des recommandations, mais là, on peut présenter ça comme une recommandation ferme. Disons que c'est quelque chose quand même que vous tenez, voilà, vous souhaitez vraiment que ça émerge.
Lorsqu'on est sénateur, on s'assure de présenter des choses qui représentent notre, qui représentent nos communautés, qui touchent aux enjeux de nos communautés. Mais malheureusement, on ne peut pas faire des recommandations ou des motions ou des projets de loi qui ont une incidence financière. C'est le gouvernement qui a le budget. Donc, dire que ce serait ferme, ben c'est ferme. Mais s'ils veulent nous consulter pour qu'on voit comment le structurer, ce conseil, on peut contribuer, on peut s'associer à une telle démarche. Mais on ne peut pas initier cela à partir du Sénat. Non, nous sommes des législateurs, il ne faut jamais l'oublier.
Vous avez parlé d'enjeux des communautés et je ne peux pas, si vous permettez, je ne peux pas vous laisser partir sans vous interroger ou avoir un peu votre avis sur un problème assez récurrent, honorable Amina Gerba, je dois le dire, c'est le problème des visas pour les ressortissants subsahariens, francophones notamment, que ce soit des gens qui veulent venir ici pour des raisons économiques, que ce soit des étudiants, on entend ça depuis un certain nombre de déjà, on peut parler de 2 à 3 ans, de cette difficulté à obtenir des visas, et on sait que c'est du côté de l'Immigration Canada. Et vous avez sûrement reçu, j'imagine, des doléances sur votre bureau. D'ailleurs, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Effectivement, ça, c'est un enjeu important. Et vous connaissez le système d'immigration au Canada. C'est toute une machine qui est parfois difficile à bouger. Ces dernières années, effectivement, les demandes de visa d'étudiants francophones, notamment en provenance de certains pays d'Afrique, ont essuyé des taux de refus allant jusqu'à 80%. On a soulevé ça. J'ai posé des questions. Le ministre de l'Immigration est venu au Sénat parce qu'on a la possibilité de faire venir, d'inviter les ministres pour venir répondre à nos questions. Et moi, j'ai posé des questions concernant ces visas-là. Dans le cas du Québec en particulier, on a beaucoup, beaucoup de cas. Je pense que c'est la province qui a été le plus touchée par ces refus systématiques. Donc, après avoir reconnu la présence de racisme et de discrimination au sein de l'Immigration Canada, ça a été reconnu. Je ne sais pas si vous le savez.
Tout à fait.
Ça a été reconnu. Le gouvernement fédéral a commencé à agir. Aujourd'hui, on nous assure, et il y a eu un article, je crois, qui est sorti à ce propos-là, où on nous dit que 4 demandes sur 10 provenance de pays africains seraient maintenant acceptées.
OK.
Donc, ça bouge. Donc, c'est une augmentation de 4 points de pourcentage quand même en un an. C'est intéressant. Mais beaucoup, effectivement, reste à faire sur ce point. Et nous devons veiller, continuer à veiller à ce que les Africains soient traités de la même manière que n'importe quel demandeur de visa au Canada. Donc, c'est un sujet qui me concerne vraiment parce que qui m'interpelle et pour lequel je suis attentivement ce qui se passe du côté du gouvernement, du côté du ministère, mais les immigrants du continent, en particulier les étudiants francophones, sont une chance immense pour le Canada. On ne peut pas s'amuser à les rejeter comme ça. Ils participent beaucoup au soutien du français qui est en déclin. Vous savez que le français aujourd'hui est en déclin et la francophonie est absolument africaine aujourd'hui. Donc, c'est important qu'on regarde ce dossier-là de façon attentive et de faire en sorte que nous puissions accueillir davantage d'immigrants francophones d'Afrique.
J'espère vraiment que la prochaine fois que vous allez m'accorder un entretien comme ça, on ne parlera plus de 4 sur 10, mais peut-être de 6 sur 10. Mais surtout, j'espère, Amina Gerba, que là, dans un an, justement, dans votre rôle de coprésidente de l'association parlementaire Canada-Afrique, dans un an, lorsque vous allez encore faire une tribune pour cette journée-là. On évoquera probablement, la naissance de ce Conseil canadien de la diaspora que vous souhaitez.
Ben écoutez, je ne peux rien promettre. Comme j'ai dit, je ne peux absolument rien promettre, mais j'espère qu'on sera écouté, puis que le gouvernement va saisir cette opportunité-là qui est réelle. Réel pour utiliser ça comme une voie sûre de développement de partenariat entre le Canada et l'Afrique.
Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé et puis je vous dis à bientôt et comme toujours bon séjour à Ottawa.
merci pour l'opportunité et à très bientôt.
Bye. À bientôt. Voilà, c'était l'honorable Amina Gerba, je rappelle encore, sénatrice du district de Rigaud, au Sénat du Canada.